Coucou les deux, je vous propose une leçon de civilisation en audio. Alors rappelez-vous, dans le texte de la dernière séquence, Histoire d'un fauve, nous découvrions les mésaventures de petits garçons qui adoraient aller assister à des spectacles d'animaux dans l'amphithéâtre et qui du coup avaient pris peur en entendant un bébé âne. Le sujet de la civilisation seront les animaux dans les spectacles, en fait. Alors, vous savez, il y a différents types de spectacles qui existaient dans l'Antiquité et différents lieux où on pouvait assister à des spectacles. Tout de suite, vous pensez à l'amphithéâtre, le Colisée en est un. Donc, dans l'amphithéâtre, effectivement, il y avait des spectacles organisés qui faisaient intervenir des animaux. Vous connaissez, les plus célèbres, ce sont évidemment les combats de gladiateurs. Les gladiateurs pouvaient s'affronter entre eux, mais pouvaient également affronter des animaux. Vous le savez, ces gladiateurs s'appellent les bestiaires, et ils affrontaient, pour le plus grand plaisir du public, des animaux comme des fauves, des ours et des choses comme ça. Seulement, il n'y avait pas que ça comme spectacle faisant intervenir les animaux. Vous pouviez aussi avoir des animaux qui affrontaient d'autres animaux dans l'amphithéâtre. Alors évidemment, il fallait toujours présenter des animaux exotiques, puisque le peuple devait en avoir, pour son argent si je puis dire, devait être impressionné. Donc, il fallait des animaux exotiques. Exotiques, ça veut dire qu'ils venaient de contrées très lointaines, et donc il fallait présenter au peuple des animaux qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Ces animaux, dont on peut citer les fauves, donc les gros chats, lions, tigres, panthères, léopards, etc. Il y avait aussi des éléphants, on pouvait également trouver des ours, des crocodiles, des hippopotames, des chameaux, enfin il y avait vraiment un peu de tout. Mais tous ces animaux, il fallait aller les chasser et les capturer sur leur propre territoire. Donc c'était de longues expéditions, de longs voyages vers l'Afrique ou l'Asie, et arriver sur place. Il fallait encore capturer les animaux sans trop leur faire de mal et les ramener après, faire le voyage retour sans trop de pertes non plus, d'accord? Ça demandait une organisation incroyable et d'énormes moyens pour amener tous ces animaux vivants à Rome. Ces animaux, donc, avant de participer à un spectacle, devaient passer entre les mains d'un dresseur. Vous le savez, on en avait un peu parlé l'année passée en première, quand on a parlé des gladiateurs. Il y avait des dresseurs dont le boulot était de rendre les animaux combatifs, agressifs et sanguinaires. Alors, comment est-ce qu'on faisait? Je pense notamment aux fauves. Eh bien, ça consistait à, un, les priver de nourriture pour les affamer, et ensuite, les nourrir exclusivement avec de la chair humaine, donc avec des cadavres qui n'étaient pas très compliqués à trouver dans l'Antiquité. Ils étaient évidemment battus pour les rendre agressifs. Et donc, avant de pouvoir participer à un spectacle, il fallait d'abord que ces animaux soient entraînés. Donc là aussi, ça demandait beaucoup de dépenses d'argent et d'énergie. Ces animaux, beaucoup sont morts durant l'Antiquité, effectivement. Alors, à titre indicatif, sous le règne de l'empereur Auguste, du tout premier empereur de Rome, qui a régné à peu près une quarantaine d'années, eh bien, on dénombre à peu près 3500 animaux qui ont été tués ainsi dans les combats dans l'amphithéâtre. En comparaison, sous l'empereur Titus, pour l'inauguration du Colisée, eh bien, en une seule journée, 5000 bêtes ont été mises à mort. 5000 en une journée, c'est énorme. Et si vous vous souvenez de l'histoire de Titus, il succède à son vieux papa Vespasien, qui avait commandé la construction du Colisée. Et lorsqu'il monte sur le trône, il y a la fameuse catastrophe de Pompéi dont on a parlé au début de l'année, et donc le peuple commençait un petit peu à se méfier de cet empereur qui apportait tant de catastrophes, et donc il s'est dépêché de faire accélérer la fin des travaux du Colisée, et il a offert pour l'ouverture 90 jours de fête non-stop, et donc pour la première journée, 5000 bêtes tuées pour le plaisir du public. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme type de spectacle avec les animaux? On en a parlé. Donc, les animaux contre d'autres animaux. Et là, il fallait évidemment faire combattre des animaux de même valeur. Il fallait que le combat soit équitable pour qu'il dure le plus longtemps possible. Vous n'allez pas mettre un lion face à une poule, par exemple. Ça ne sert à rien. Donc, ours contre buffle, buffle contre éléphant, éléphant contre rhinocéros, etc. Donc ça, le public aimait beaucoup. Un autre type de spectacle, toujours aussi sanglant pour ces pauvres bêtes, c'était des chasses. Alors les chasses, en latin, ça s'appelle des venationes. Alors en quoi ça consistait? Eh bien, comme son nom l'indique, des gladiateurs allaient chasser un certain type d'animaux exotiques au milieu de l'arène. Et pour l'occasion, sur l'arène, eh bien, ils construisaient un décor censé représenter le milieu naturel de l'animal qui allait être chassé. Donc, on ramenait des plantes, des rochers, on essayait de constituer des petites cachettes pour qu'il y ait un petit suspense. On lâchait les bêtes, et puis effectivement, les gladiateurs arrivaient pour essayer de les chasser à coups de flèches. Ça avait du succès aussi. Dernier type de spectacle à l'amphithéâtre avec des animaux et qui faisait couler du sang, c'est ce qu'on appelle la damnatio ad bestias, c'est-à-dire la condamnation aux bêtes. Alors ça consistait en quoi? Eh bien, ça consistait à livrer des condamnés à mort aux bêtes. Donc des hommes, des femmes, des enfants étaient lâchés au milieu de l'arène sans armes évidemment. Et puis on lâchait sur eux, enfin, généralement c'était des fauves, des lions, et donc ces pauvres gens se faisaient dévorer sous les yeux du public. Alors il faut savoir quand même que ce genre de spectacle était organisé très tôt le matin, hein, il n'y avait vraiment que les fans de ce genre d'horreur qui venaient y assister, c'était pas franchement un spectacle familial. Petite note positive, il y avait d'autres types de spectacles qui ne faisaient pas mourir les animaux. Alors, je ne sais pas si vous pensez aujourd'hui à un type de spectacle qui existe encore où on peut voir des animaux mais qui ne meurent pas à la fin quand même. C'est par exemple un peu comme le cirque moderne, donc c'est-à-dire des tours d'animaux savants, avec des animaux qui ont été apprivoisés et qui ont appris à faire certaines choses. Ça existait dans l'Antiquité, et donc on a des sources écrites qui nous parlent par exemple d'éléphants qui arrivaient à faire la révérence devant la loge de l'empereur, qui parvenaient à écrire sur le sable de l'arène des phrases latines avec leur trompe. Il y a aussi des tours avec des lions qui attrapent un petit lapin dans leur gueule et puis qui les relâchent, ou alors qui viennent lécher la main de leur dresseur qui vient de les fouetter. Tout ça existait aussi dans l'Antiquité et ça avait son petit succès. Autre spectacle qui ne faisait pas mourir des animaux, c'était des parades d'animaux. Alors une parade, c'est quoi? C'est un défilé. On faisait défiler des animaux, mais alors pour rendre la chose un peu plus marrante, on peignait les animaux en couleurs inédites, hein. Donc par exemple une autruche en rouge, un bœuf en peint en blanc, des lions avec une crinière d'or, etc. Ça aussi, ça plaisait au peuple. Ça, c'est pour tout ce qu'on pouvait effectivement organisé dans un amphithéâtre. Maintenant, l'amphithéâtre n'est pas le seul lieu où on pouvait organiser des spectacles dans l'Antiquité. Si vous vous souvenez de la carte de la maquette de Rome dans le fond de la classe, donc vers le haut, vers la droite, il y a le Colisée, et puis un peu plus bas, vous avez un long bâtiment très allongé. Est-ce que vous vous souvenez de comment s'appelle ce bâtiment? C'est le cirque, oui, le circus. Et donc le cirque aussi organiser des spectacles qui faisaient intervenir des animaux. Est-ce que vous vous souvenez de quelle sorte de spectacle avait lieu dans le cirque? C'était des courses de chars. Donc un char conduit par un cocher, c'est comme ça qu'on appelle le conducteur d'un char, qui est un gladiateur. Et donc le but, c'est de faire une course et de faire 7 fois, c'est généralement ce chiffre-là, 7 tours de piste et arriver le premier. Néanmoins, dans le cirque, il n'y a pas que des courses de chars qui étaient organisées. C'est un bâtiment où on pouvait aussi organiser des courses, donc des courses à pied. Donc ça, c'était plutôt sportif. Des défilés militaires et du pugilat. Alors le pugilat, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le mot, c'est un sport, c'est un peu l'ancêtre de la boxe. Donc c'était se battre avec ses poings. Donc dans ce cirque, on peut faire plein de trucs, mais le spectacle qui a le plus de popularité, ce sont les courses de chars. Il faut savoir que ce grand bâtiment pouvait accueillir jusqu'à 250 000 spectateurs. Ça, c'était sa capacité maximale au 1er siècle après Jésus-Christ. 250 000 spectateurs, c'est 5 fois le Colisée. Donc énormément de monde pouvait venir. Les gens adoraient les courses. Pourquoi? Bah parce que quand on allait assister aux courses, on pouvait aussi faire des paris et gagner ou perdre beaucoup d'argent. Donc ça, c'est encore exactement comme aujourd'hui. Alors, ça se passe comment une course? Je vous ai dit, il faut faire 7 fois le tour de la piste pour gagner. Il y a toujours 4 équipes qui s'affrontent. Donc, il n'y a pas plus de 4 chars sur la piste. Ces 4 équipes sont symbolisées par 4 couleurs différentes. Comme ça, on peut identifier facilement de loin le coureur qu'on encourage. Je vous ai dit que les cochers étaient des esclaves, donc des gladiateurs, mais certains étaient de véritables stars. D'accord? Alors, pourquoi ce sont des gladiateurs qui conduisent des chars? Eh bien, parce que c'est très dangereux, en fait. Il y a pas mal d'accidents qui se passent, il peut y avoir des chutes. D'ailleurs, le spectateur adore voir les chutes, c'est très impressionnant. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est des gladiateurs qui font ce boulot-là. Alors, ce char pouvait être tiré par plutôt par 2, 4, parfois 6 ou 8 chevaux. D'accord? Et on a des traces écrites qui nous parlent de courses plus exotiques où à la place des chevaux, il y avait des chameaux, des tigres et même des éléphants. D'accord? Il faut faire 7 tours de piste. Alors moi j'ai une question. Pour aller le plus vite possible, est-ce que c'est plus facile de prendre un tournant très large quand on tourne ou au contraire un tournant très serré? Pour aller plus vite, il faut prendre un tournant très serré. Mais du coup, c'est dangereux. Parce que au plus vous êtes au bord de la piste, au plus vous pouvez vous prendre une bordure. Et les roues pouvaient alors du coup se casser, ou alors votre char était déstabilisé, et c'est comme ça qu'on tombait de son char. Et il ne faut pas croire que les gladiateurs derrière vous allaient s'arrêter. Donc certains mouraient piétinés par tous ces chevaux et ces chars. D'accord? 4 couleurs. Alors ces 4 couleurs des 4 équipes différentes qui s'affrontaient sont le vert, le rouge, le bleu et le blanc. Alors, est-ce qu'à votre avis, ces couleurs étaient choisies au hasard, connaissant les Romains? Non, évidemment. Ces couleurs symbolisaient à chaque fois quelque chose. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça pouvait symboliser? Petit indice, on parle de 4 couleurs. Qu'est-ce qui va par 4? Petite idée? Oui? Alors, je vais vous donner la réponse. Donc, ces 4 couleurs symbolisaient à chaque fois une saison. Il y a 4 saisons. Symbolisait un élément, puisqu'il y a 4 éléments, et symbolisait aussi à chaque fois une divinité. La religion, vous le savez, est partout à Rome. Alors, le vert, ça symbolise quoi? Ça symbolise la saison du printemps, ça symbolise la déesse Vénus, déesse de l'amour, et ça symbolise l'élément terre. Le rouge symbolise l'été, symbolise le dieu Mars, dieu de la guerre, et symbolise l'élément du feu. Le bleu, là c'est pour la saison de l'automne. Alors deux possibilités, deux variantes pour la divinité. Soit ça fait référence à Saturne. Alors si vous vous souvenez, Saturne c'est le père des dieux olympiens. C'est un titan qui avait pris l'habitude, souvenez-vous, de dévorer ses enfants pour éviter de se faire piquer son trône. Ou alors dans d'autres versions, ça symbolise Neptune, le dieu de la mer. Et le bleu symbolise bien évidemment l'élément eau. Dernière couleur, le blanc. Ça c'est pour symboliser l'hiver, le dieu Jupiter et le dernier élément qui est l'air. Donc quand vous pariez sur la couleur de votre cocher préféré, ça entrait un petit peu en ligne de compte aussi. Je vous ai dit, le cirque pouvait attirer énormément de monde et pas que des spectateurs. Donc faut imaginer, il y a une foule énorme qui viennent et qui repartent puisqu'on assiste à une course, puis on repart, puis on vient voir une autre course, etc. Ça dure toute la journée. Et du coup, un peu comme maintenant, quand il y a un grand événement organisé qui rassemble beaucoup de gens, des gens qui vont parier, donc il y a aussi un échange d'argent. Qu'est-ce que ça va attirer comme type de gens autour de ce bâtiment? Un peu comme aujourd'hui quand il y a match de foot, souvent, qu'est-ce qui vient s'établir près du stade? Eh bien, vous pouvez avoir par exemple des vendeurs de toutes sortes, et principalement des vendeurs de nourriture. D'accord? Ça existe encore aujourd'hui. Ça va évidemment attirer les voleurs, puisque s'il y a du monde et de l'argent qui circule, les pickpockets s'en donnent à cœur joie. Et ça va aussi attirer les mendiants, les choses comme ça, et les prostituées qui voient là effectivement une bonne occasion de faire leurs affaires. Que vous dire d'autre sur les combats d'animaux? Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Alors, quand vous prendrez les feuilles de civilisation, il y a certaines illustrations. Donc la première, c'est une petite peinture qui représente un bestiaire, donc c'est-à-dire un gladiateur qui affronte ici un fauve, on dirait une espèce de panthère ou de léopard. L'image d'après, c'est une mosaïque. Alors vous souvenez, la mosaïque, c'est ces tout petits carreaux de marbre qui sont associés pour faire un motif. C'est une scène de chasse. Alors on chasse quoi? On chasse une espèce de tigre. Et donc vous voyez que c'est pas du tout pour le tuer, puisqu'ils essayent de lui mettre une espèce de harnais autour de lui pour essayer de l'attraper justement sans l'abîmer pour pouvoir effectivement le ramener à Rome. Donc il fallait quand même un certain talent pour faire ce genre de choses. Sur la page suivante, vous avez encore une mosaïque un petit peu moins sympathique où là il y a un fauve qui est en train de dévorer littéralement un pauvre condamné à mort. Et vous voyez qu'il y a une personne qui est derrière et qui a l'air de prendre l'autre comme bouclier pour éviter de se faire manger en premier. Sur l'image suivante, c'est à nouveau une mosaïque qui représente une scène de course de chars. Alors regardez bien l'image, à votre avis, est-ce que ça se passe en début de course, pendant la course ou après la course? Regardez bien. Bien, ça se passe après la course, puisqu'on a un vainqueur, un victorieux. Alors, est-ce que vous voyez lequel des deux cochers a gagné? C'est, oui, celui qui lève la main et qui a une palme. Donc, c'est une branche d'un palmier, hein, une palme, symbole de sa victoire. Et vous voyez que chacun de ces chars est tiré par deux chevaux. D'accord? Et enfin, la dernière illustration, c'est une reconstitution en dessin du Circus Maximus. D'ailleurs, vous pouvez l'écrire. Circus Maximus, donc le plus grand cirque. C'est un cirque qui a vu le jour déjà vers au 7e siècle avant Jésus-Christ, vers 600 avant Jésus-Christ. Puis il va être agrandi au cours du 1er siècle avant Jésus-Christ. Sous l'empereur Auguste, un siècle plus tard, il pourra accueillir 150 000 spectateurs et environ 50 ans plus tard, il aura sa capacité maximale de 250 000 places. Donc n'hésitez pas par retour de mail si jamais vous avez encore des questions ou des choses pas qui demandent des éclaircissements sur vos feuilles de civilisation. Voilà, je sais que ça vaut pas une vraie leçon de civilisation en classe avec et tout, mais voilà. Donc prenez bien soin de vous et travaillez bien. À bientôt.